Le journal Xavier Demani, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Participation en Berne par rapport à 2015, élections régionales et départementales aujourd'hui. 12% des Françaises et des Français se sont déplacés à midi. La crainte d'une forte abstention, c'est l'un des enjeux de ce double scrutin, le dernier avant la présidentielle. On ira tout à l'heure dans un bureau de vote parisien où tout est fait pour voter en se protégeant du Covid. Des grêlons aussi gros que des balles de tennis, des toits arrachés, les orages ont fait des dégâts ces dernières heures. On sera en Franche-Comté dans un instant. Toujours 28 départements concernés par une vigilance orange. Un documentaire essentiel pour libérer la parole. 6 sportifs et sportives encore en activité font leur coming out. L'escrimeuse Astrid Guyard, invitée de ce journal tout à l'heure. Et puis à suivre aussi la région capitale de Lisbonne sous cloche ce week-end. Hausse des cas de coronavirus, la journée mondiale des réfugiés, nous irons en Colombie. Et puis le Grand Prix de France au Castellet, c'est de la Formule 1.
France Inter.
48 millions d'électeurs, mais seulement 12% se sont pour l'instant déplacés. Participation à midi pour ce premier tour des élections régionales et départementales. Un chiffre en baisse par rapport aux dernières élections de 2015, Gaëlle Joly.
Oui, vous le disiez, 12,22% des électeurs se sont déplacés à midi. Un chiffre commun cette année pour les deux élections, régionales et départementales. Un chiffre en nette baisse, c'est 4 points de moins par rapport aux dernières élections de 2015, avec une participation qui s'élevait à 16,27% à midi et à titre comparatif 16,07% en 2010, c'était le record d'abstention, record battu donc à plate couture avec ce taux de participation à 12,22% pour ce premier tour des régionales. Dans le détail, la région qui a le plus voté, c'est la Corse avec 22,5%. La région la plus faible, c'est 8,47%, l'Île-de-France avec en dernière position le département du Val-d'Oise avec ce taux de participation de 6,97%.
Gaëlle Joly depuis le ministère de l'Intérieur à Paris, place Beauvau. Emmanuel Macron a voté ce matin au Touquet, tout comme Jean Castex à Prades, sa commune, en début de journée. Les ministres et les personnalités candidates qui mettent le bulletin dans l'urne, mais tout le monde craint donc cette très forte abstention, l'un des enjeux de ce double scrutin, le dernier avant la prochaine présidentielle. Pourtant, face au coronavirus, tout est fait pour voter en parfaite sécurité sanitaire, comme vous l'avez constaté à Paris, Béatrice Duguay.
Même en temps de Covid, voter est un jeu d'enfant.
Faut que vous preniez le bulletin et vous passez à l'isoloir.
Direction l'isoloir, donc, puis cap sur l'urne.
1931.
C'est moi.
Tout à fait, vous pouvez voter. Merci. À voter, et je vous laisse émerger, monsieur.
Merci. Vous êtes venu avec votre propre stylo.
Comme on nous avait proposé de le faire, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée, autant simplifier les choses pour tout le monde. L'important, c'est de voter, je crois.
Ceux qui ont voté ce matin connaissent le rituel, même pas besoin de la carte d'électeur.
Est-ce que vous avez votre carte d'électeur ?
Non.
Et ben on va vous chercher.
C'est un déménagement ou...
Non, je n'ai pas reçu, mais par contre, j'ai ça. On peut, sur le site, récupérer une attestation indiquant à quel bureau de vote on va et même le numéro du bureau. Donc, du coup, il n'y avait aucun risque.
Dans le bureau, les flux sont bien régulés. L'espace est plus large que d'habitude pour que les électeurs ne s'empilent pas trop, se croisent rapidement. Les isoloirs sont nettoyés régulièrement. Le gel hydroalcoolique est évidemment à disposition. Tout le monde est masqué. Reste que les électeurs ne se bousculent pas pour ce scrutin régional. Et c'est un regret pour Léa.
Enfin, moi, je suis encore étudiante et je suis dans l'urbanisme. Donc, je sais que c'est très important, ces décisions à cette échelle-là. Mais je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé aux enjeux régionaux. Je pense que les gens ne sont pas au courant que ça a un poids et qu'il n'y a pas que les présidentielles qui comptent finalement.
Dans ce bureau du 15e arrondissement de Paris, les électeurs votent plutôt plus qu'au niveau national. Ils ne se pressaient pas à l'ouverture tout à l'heure, mais ils sont arrivés d'un coup vers 10h. À voir si le rythme se maintient jusqu'à ce soir.
Voilà pour le vote masqué avec la distance et son propre stylo dans le 15e arrondissement à Paris. Ce matin à Marseille, certains bureaux n'ont pas pu ouvrir à 8h faute d'assesseurs. Problème résolu, dit désormais la mairie qui a mobilisé 40 fonctionnaires pour assurer la bonne tenue du scrutin dont on va parler largement ce soir à partir de 19h20, émission spéciale autour de Claire Servageant et Yael Gauz, chef du service politique. Les premières estimations région par région à partir de 20h, nos spécialistes en studio et nos reporters dans les régions clés. De fortes pluies, des vents violents, attention aux orages encore aujourd'hui. 28 départements sont toujours en vigilance orange, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne, en Alsace, mais aussi en Franche-Comté. Hier déjà, des grêlons énormes sont tombés du ciel près de Besançon. Le maire de Vercelles, Villedieu-le-Camp, n'avait jamais vu ça. Christian Vermeau-Desroches répond à nos amis de France Bleu.
Ça a commencé par un orage à gronder fortement, après c'est de la pluie qui est arrivée, et d'un seul coup, ben, c'était des grêlons, mais au début des petits grêlons, et après c'était des grêlons la taille d'une balle de tennis, hein, donc c'était des dégâts hyper importants, lunettes arrière des véhicules, les pare-brises, bien sûr toute la carrosserie des véhicules, et tout ce qui est au niveau habitation, les tuiles, les gens qui ont des couvertures sur leur piscine, bon, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Donc là, c'est hyper impressionnant, quoi. Il y a une partie de Versailles qui a vraiment été tapée vraiment fort. Moi, j'ai jamais vu des grêlons aussi gros, hein. Vraiment terrible, quoi. C'est une balle de tennis, hein. C'était pas des petits grêlons, quoi. Là, ça a pas duré longtemps, mais le peu que ça a duré, ben, ça fait des gros dégâts, quoi. Ceux qui ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit, ça doit pas être rigolo.
Des orages précoces et violents, mais assez classiques l'été, dit Météo France. Quelques milliers de clients ont été privés d'électricité en Dordogne, en Ile-de-France ou dans le centre, à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Un quartier dévasté, 600 mètres carrés de toit arraché. Le maire demande un arrêté de catastrophe naturelle. Le trafic des trains, enfin en région francilienne, a été perturbé ce matin, mais tout semble rentrer dans l'ordre. Les dangers de la baignade, les pompiers alertent en Savoie et en Haute-Savoie. Trois noyades à déplorer ces dernières 24 heures. Trois hommes, dont un jeune de 19 ans au lac du Bourget. La fin d'une restriction qu'on avait presque déjà oubliée depuis mercredi et l'annonce de sa levée avec 10 jours d'avance, le couvre-feu, eh bien c'est terminé. Les bars ouverts jusqu'à 2h du matin par exemple. Les théâtres, les ciné peuvent aussi décaler les spectacles et les séances en attendant les boîtes de nuit. Peut-être dans les prochaines semaines, la fête de la musique demain soir 21 juin sera quand même très surveillée. Mini-concerts dans les bars et restaurants autorisés en extérieur. Le port du masque est recommandé pour les gros regroupements. Et à 2 semaines des vacances, attention à ne pas se relâcher. Entretien d'Olivier Véran au Journal du Dimanche ce matin. Même si la situation sanitaire s'améliore, il faut continuer à traquer le virus cet été. Boris Allier.
Le ministre de la Santé promet un contrôle renforcé pour les personnes touchées par le variant Delta, le variant indien. Pas question d'ignorer les appels de l'assurance maladie ni de braver les règles de l'isolement. Les préfets pourront eux-mêmes l'imposer si nécessaire. Pour identifier les chaînes de contamination et notamment les clusters, 2000 médiateurs anti-Covid seront déployés dans les zones touristiques pour seconder les agents de l'assurance maladie et pour inciter les vacanciers à se dépister. Les fameux autotests déployés dans les écoles seront distribuées gratuitement sur les plages, dans les campings ou les hôtels. Des kits seront également fournis aux centres de loisirs et aux colonies de vacances. C'est une maille supplémentaire au filet pour traquer le virus, selon Olivier Véran. Sans compter cette expérimentation avec des chiens renifleurs capables de détecter le Covid. Ils seront mis à contribution dans un port et un aéroport français.
En France, la situation est donc plutôt bonne, tendance toujours à la baisse sur le nombre de nouveaux cas de coronavirus. Ce n'est pas le cas partout. Allons au Portugal. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Xavier.
La région capitale de Lisbonne vit sous cloche ce week-end. Personne ne peut en entrer ou en sortir en raison d'une nouvelle hausse des cas, hausse jugée inquiétante par les autorités.
Oui, près de 1200 nouveaux cas enregistrés hier. On est certes loin des 16 500 contaminations quotidiennes recensées fin janvier au plus fort de l'épidémie. Mais les chiffres n'ont jamais été aussi élevé depuis 4 mois, en dépit d'un rythme soutenu de vaccination. Un Portugais sur 4 a déjà reçu ses 2 injections. Lisbonne et sa banlieue concentrent les 2/3 des nouveaux cas liés pour l'essentiel au variant Delta. La mise sous cloche de la région, annoncée il y a 3 jours, a pourtant surpris le président portugais, écartant avec véhémence tout retour au confinement. Mais pas le Premier ministre, António Costa, nettement plus prudent. Il se rappelle la mortalité record, les hôpitaux submergés et les critiques essuyées cet hiver. Depuis, le Portugal a rouvert ses portes aux touristes européens et britanniques qui peuvent d'ailleurs débarquer ce week-end comme prévu à l'aéroport, mais pas circuler entre Lisbonne et le reste du pays. Alors cette mise sous cloche va-t-elle être prolongée au-delà de demain lundi? Question primordiale, notamment pour le tourisme qui représente 10% du PIB portugais et emploie 200 000 personnes rien que dans la région de Lisbonne.
Louise Baudet, merci à vous. Le Brésil franchit le dramatique seuil des 500 000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie. Nouveau record aussi de contamination à Moscou en Russie, plus de 9100 cas en 24 heures, tandis que la Chine affirme avoir dépassé le milliard de doses de vaccins anti-Covid. Cela donne 1/3 du total planétaire. L'ancienne formule du Levothyrox sera disponible 1 an de plus, au moins jusqu'à la fin 2022 au lieu de la fin de l'année 2021. Annonce du laboratoire Merck qui dit vouloir s'adapter à la crise sanitaire. Certains patients peuvent avoir du mal à changer de traitement en cette période. France Inter 13h10. 10, journée mondiale des réfugiés. Ce dimanche, 80 millions de personnes à travers la planète qui fuient les guerres, les persécutions et de plus en plus les dérèglements climatiques. La Colombie, par exemple, accueillerait plus d'1 700 000 réfugiés venus du Venezuela. France Inter à Medellin, Najed Benrabah.
Plus d'1 700 000 Vénézuéliens vivent en Colombie, d'après les services de l'immigration. Daniel Pérez est arrivé à Medellín en 2019 avec sa femme et son fils. La vie au Venezuela n'était plus possible.
Avec mon salaire, j'aide ma famille au Venezuela et j'ai une tante qui lutte contre un cancer. C'est une aide, petite soit-elle, alors qu'au Venezuela, on vit pour tenter de manger. Si on espère vivre avec un salaire vénézuélien, on ne survit pas 2 jours. Ça reviendrait à 20 000 pesos par mois. Environ 5 euros, c'est impossible.
Cette année, le gouvernement colombien a annoncé la régularisation de plus d'1 million de Vénézuéliens. Tony Vitola, le vice-président de Colvens, la colonie des Vénézuéliens en Colombie.
Le but est de fournir un permis de protection temporaire. C'est un nouveau permis qui est en train d'être mis en place en Colombie et qui sera valable 10 ans.
À ce jour, d'après le directeur des services de l'immigration de Colombie, plus de 800 000 Vénézuéliens ont été enregistrés, alors que selon l'ONU, 2 000 Vénézuéliens traversent chaque jour les frontières entre le Venezuela et la Colombie. Najed Benrabah, Medellin, France Inter.
Et je vous invite à aller voir sur franceinter.fr, notre site internet. On fait le point sur la situation des réfugiés dans le monde. On vote en France aujourd'hui, on vote aussi en Arménie. Législative anticipée, le fauteuil de Premier ministre mis en jeu. 7 mois après la capitulation face à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, l'actuel chef du gouvernement, Nicole Pachinian, semble avoir malgré tout une certaine avance. Et puis aux États-Unis, un mort dans une marche des fiertés en Floride. Le conducteur d'une camionnette a heurté plusieurs participants, faisant aussi quelques blessés. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un simple accident ou d'un acte délibéré. Le conducteur est en garde à vue.
France Inter, le journal de 13h. Xavier Demany.
Ils sont 6, 3 hommes et 3 femmes à briser un tabou dans le monde du sport en révélant publiquement leur homosexualité. Faut qu'on parle, documentaire important et utile diffusé hier soir sur Canal+, avec la judokate Amandine Buchard, la basketteuse Céline Dumerc, le nageur Jérémy Stravius, le patineur Kevin Emoz, le rugbyman Jérémy Clamy-Edrou. Et la 6e à témoigner dans ce documentaire est escrimeuse et elle est en ligne avec nous. Bonjour Astrid Guyard.
Bonjour.
Fleurettiste, plusieurs fois championne de France, médaillée aussi à de nombreuses reprises par équipe. J'imagine, si vous l'avez fait, que c'était important pour vous de témoigner comme ça publiquement.
Oui, c'était important. En fait, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas forcément ressenti le besoin d'aller sur le terrain de ma vie privée sur le plan médiatique, mais c'était vraiment pour les autres, pour le fait de donner le courage, la force à d'autres, de pouvoir bien le vivre, tout simplement. Et je pense que c'est important pour les jeunes d'entendre qu'on peut être homosexuel et faire du sport de haut niveau en étant pleinement épanoui.
Parce que vous racontez, vous, comment vous avez caché votre homosexualité, comment vous avez eu la chance, entre guillemets, d'avoir une première relation qui s'appelait Raphaël et que c'était un prénom mixte, et finalement, ça vous évitait des questions. Comment on subit aussi les blagues homophobes dans les vestiaires?
Alors, c'est pire que ça. Elle ne s'appelait pas Raphaël. C'est moi qui ai inventé ce prénom.
D'accord.
Parce qu'en fait, elle n'avait pas du tout un prénom mixte. Donc, effectivement, comment on gère ça, hein, c'est on omet de dire des choses, on change les prénoms. Hein, c'est pareil, ridicule 20 ans après. Mais bon, c'est une première façon de penser berner notre monde, en fait. Et c'est ça qui est important de se dire. C'est qu'en fait, on pense berner, mais les gens savent. Et c'est ça qui est intéressant une fois qu'on le dit. C'est qu'on s'aperçoit que c'est pas une information qu'on donne aux autres, mais c'est plutôt une formulation des choses qu'on fait à soi-même.
Est-ce que ça gâche des carrières, tout simplement?
Je pense que oui, ça gâche des carrières parce que la pression du vestiaire, elle peut être réelle, que ce soit en sport collectif comme en sport individuel. Et puis le plus gros frein, de toute façon, à la performance sportive, c'est de ne pas pouvoir dire qui on est, d'avoir honte de soi-même, d'être à moitié soi-même. Très clairement, dans le sport de haut niveau, si on doit exceller, si on doit performer, on doit d'abord être son meilleur allié. Et donc pour ça, il faut s'accepter pleinement.
Est-ce que cette prise de parole, pour vous, qui êtes une sportive encore en activité, est un risque pour votre carrière professionnelle?
Alors, aujourd'hui, clairement, je ressens aucun risque, ouais. Mais très probablement parce que je suis heureuse dans ma vie et parce que je me sens solide. Peut-être que j'en aurais pas été capable avant. Donc voilà, quand on, je pense que c'est une question de timing aussi pour moi. Aujourd'hui, ma vie personnelle, elle est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance et ça me donne certainement cette force de pouvoir le dire publiquement.
Vous êtes désormais 7 sportifs ou sportives en activité à avoir révélé votre homosexualité jusqu'à présent. Il y avait un seul athlète, c'était Guillaume Cizeron qui avait fait son coming out. C'est peu. Est-ce que ça reflète la réalité ou pas du tout?
Alors, il y en a d'autres, hein, ouais. Bien évidemment. Je pense à Mélanie Henniquez, qui est une nageuse, Amélie Mauresmo aussi, en 100 ans. Ça avait été très dur pour elle, on s'en souvient. Moi, j'ai envie de dire, on n'en est que là, en fait. Hein. On n'en est que là dans le sport de haut niveau, d'avoir une poignée de sportifs de haut niveau en carrière qui fassent leur coming out. C'est un peu l'âge de pierre, en fait. Hein, et ça montre qu'on a encore du chemin dans le monde du sport pour que ce monde soit plus inclusif, en fait. Et quelque part, peut-être que si ce doc peut permettre au monde du sport d'arrêter de se cacher derrière il n'y a pas d'homosexualité dans le sport, ce sera déjà un grand pas. Voilà, au travers de ce documentaire, on a finalement pris nos responsabilités, nous en tant qu'athlètes, et puis peut-être aussi pour que d'autres les prennent derrière.
Les mentalités, j'ai l'impression, changent peut-être un peu plus vite dans la société en général que dans le monde du sport. Comment il faut faire pour faire accélérer ça dans le monde du sport?
Il faut en parler, hein, tout simplement. Mais vous avez raison, finalement, comme je le dis, hein, le monde du sport est un peu en retard, finalement, sur la société. Mais voilà, il faut en parler. Il faut avoir aussi des athlètes qui prennent la parole, qui le disent, qui témoignent sur leur parcours, sur les difficultés, sur leur bonheur, pour que d'autres s'identifient et s'aperçoivent que finalement, les freins, on se les met souvent à soi-même, parce qu'une fois qu'on s'accepte, tout se simplifie et notre entourage nous suit, en fait. Ça, c'est vraiment ça que je retiens, moi, de mon parcours. C'est que les gens qui vous aiment vous suivront si vous vous sentez épanoui, si vous vous sentez équilibré, et ceux qui ne vous acceptent pas, de toute façon, ça fait le ménage et vous gagnez du temps.
Et on vous voit d'ailleurs heureuse avec votre compagne dans le documentaire. La chanson d'Eddie De Pretto qui l'introduit, ce documentaire, dit complètement banal, complètement normal. En un mot, finalement, c'est peut-être le meilleur résumé.
Absolument, elle est superbe cette musique. On est juste des êtres humains, on est heureux et on a envie de le partager. C'est aussi ça la beauté de la vie.
Astrid Guyard, merci beaucoup. Je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à regarder ce documentaire. Faut qu'on parle, diffusé sur Canal+, signé Liliès Ou et Arnaud Bonin. Merci encore Astrid Guyard.
Merci à vous.
En parlant de sport et de télévision, 12 300 000 Français ont suivi hier le match nul de la France face à la Hongrie. C'était donc hier après-midi. 70% de part d'audience pour TF1 qui se félicite de cet énorme succès. Prochain match pour la France mercredi face au Portugal. Les Français sont premiers de leur groupe. Presque certains de se qualifier pour les huitièmes de finale. Deux matchs aussi aujourd'hui à 18h, Italie-Pays de Galles et Suisse-Turquie. Un week-end de sport avec de la Formule 1 également. Grand Prix de France au Castellet dans le Var cet après-midi 15h et qui marque encore un peu plus le retour du sport auto en France ces dernières années, mais aussi le retour et l'engouement du public. Jean-Pierre Blimaud.
Parmi les spectateurs avides de découvrir la Formule 1, Nathan est venu de Lorraine avec des copains.
Pour moi, c'est la première fois. On a pris les places il y a 3 semaines. On espère avoir un bon week-end avec du spectacle et des dépassements. On a pris la chicane exprès pour ça, donc on a dit que ça pouvait être sympa.
Et ce Lorrain est loin d'être le seul novice. Ce week-end au Castellet, il faut dire que la Formule 1 est en plein renouveau dans le sillage d'une série diffusée sur Netflix depuis 2 ans. Les audiences télé sont aussi à la hausse, ainsi Canal+, qui détient les droits sur toute la saison, a battu un record pour une diffusion cryptée du Grand Prix de Monaco le 23 mai. Et parmi les constructeurs, on souhaite aussi surfer sur la vague, notamment chez Alpine, le nouveau nom des Renault. Laurent Rossi, le PDG de la marque.
Le changement de nom a été décidé justement grâce à tous ces facteurs, en fait. À la fois parce que la F1 se discipline, entre guillemets, d'un point de vue coût, mais aussi essaie justement de profiter de cet allant enthousiasme retrouvé autour d'elle pour permettre une meilleure rentabilité du sport. Et donc on s'est dit, tentons le coup et relabellisons notre écurie et toutes nos initiatives sport mécanique sous Alpine.
Malheureusement, l'engouement ne pourra pas se voir dans les tribunes. En raison de la pandémie, 15 000 places par jour sur les 70 000 possibles ont pu être vendues, moins du quart de la capacité du circuit. Mais ce sera tout de même le premier événement sportif en France qui accueillera autant de monde depuis le début de la pandémie. Au Castellet, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Et on suivra évidemment donc le français Pierre Gasly en rugby. Toulouse rejoint La Rochelle après sa victoire sur Bordeaux-Bègles hier soir 24-21. Finale inédite de top 14 de rugby. Ce sera à suivre vendredi prochain, mais sans le Toulouse un tamac. Il souffre d'une commotion. Enfin, Thomas Pesquet, bricoleur du dimanche. Nouvelle sortie dans l'espace pour l'astronaute français. En ce moment, il doit retenter l'installation d'un panneau solaire sur la station spatiale internationale après l'opération difficile de mercredi. Bon courage à lui et à son collègue américain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Le temps de ce dimanche, le ciel reste chargé par endroits cet après-midi, Jean-Michel Golinski.
Encore une journée où les orages vont rester d'actualité avec un axe orageux principal situé entre le Tarn, la Lozère, l'Aveyron et l'Auvergne-Rhône-Alpes. En matinée, début d'après-midi, des orages progressant vers la Bourgogne-Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace ensuite, mettant au total 28 départements en vigilance orange suite aux phénomènes violents possibles, tels les fortes précipitations, la grêle, les rafales pouvant dépasser la centaine de kilomètres par heure. Notez que sur le reste du pays, l'ambiance sera quand même beaucoup plus calme qu'hier, malgré le passage toujours probable d'une averse mêlée de coups de tonnerre. Le vent sera assez fort autour de la Méditerranée et de l'axe du Rhône au Val-de-Saône, avec des pointes à 80 km par heure. Dans des températures qui vont partout afficher une certaine baisse par rapport à hier, généralement entre 2 et 4 degrés, avec à partir de 16h la fin de la vigilance canicule pour le département du Rhône.
Jean-Michel Golinski de Météo France, en ce jour de vote régional et départemental, un rendez-vous ce soir avec l'émission spéciale de Claire Sarvajan dès 19h20. Pour l'instant, on va retrouver dans un instant Denis Chessou pour un grand bol d'air frais dans les belles montagnes du massif de l'Oisans.